pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Cette maison est un IME, c'est-à-dire un institut médico-éducatif accueillant des enfants, des adolescents et de jeunes adultes lourdement handicapés, physiques et mentaux. À première vue, on croirait un joyeux camp de vacances. Un grand portail, en fer forgé, orné de deux lions majestueux, s'ouvre sur une imposante bâtisse, prétentieusement nommée château, avec deux annexes, des hectares de parc bien entretenus, avec même des paons qui se promènent librement. Il y a aussi une piscine. Le tout est niché dans une campagne verdoyante, à une quarantaine de kilomètres d'une ville moyenne du sud de la France. À la tête de cet établissement privé, financé par des fonds publics, une famille connue dans la région. Des notables, qu'il faudrait ajouter à la comédie humaine de Balzac ou qu'on verrait bien dans un film de Chabrol en mode plus trash. Lui est médecin, généraliste. Il est aussi vice-président du club de bridge local. Il a été maire d'une commune du coin, de droite, pendant des dizaines d'années. Sa femme est pédopsychiatre. Elle travaille aussi comme diététicienne dans la maison. Tous deux ont géré cette IME pendant 40 ans. Depuis quelques années, c'est leur fille qui a pris le relais. Une centaine de personnes y travaillent. Du point de vue de l'emploi, la région est assez défavorisée. L'agriculture est le premier employeur, mais ce genre d'établissement qui reçoivent des handicapés arrive en second. La fermeture de celui-ci serait une catastrophe sur ce plan-là. Il faudrait encore aller placer des enfants en Belgique, comme le font déjà plus de 6000 familles françaises dans ce qu'on appelle là-bas les usines à français, et comme le suggèrent d'ailleurs directement en France les maisons départementales des personnes handicapées. L'IME que nous vous présentons aujourd'hui a fait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires. La plus médiatique a été lancée à la suite d'une plainte déposée par un ministre chargé des personnes handicapées pour abus de biens sociaux et abus de confiance. Mais elle a été classée sans suite. Quelques années auparavant, la maison avait été placée sous la tutelle de l'État. Un administrateur provisoire a été nommé, mais la fille de la famille est restée à la direction. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, deux témoins racontent ce qui s'y passe, ce qu'ils y ont vu ou vécu. Une mère de famille raconte les séjours de son fils et une ancienne employée qui y a travaillé 6 ans lance l'alerte, comme on dit aujourd'hui. La famille qui gère cette IME, sollicitée par nos soins à 2 reprises, n'a pas souhaité répondre à nos questions, je le précise. C'est un reportage de Valérie Borst jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mon passé professionnel, d'aussi loin que je me souvienne, a toujours été tourné vers l'autre. J'ai fait de l'aide à domicile, j'ai travaillé en maison de retraite, enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et puis j'ai fait un break à la naissance de ma petite dernière parce que j'en avais besoin. J'avais émis l'idée de remettre le pied à l'étrier dans le médico-social et donc je m'étais dit, tu vas faire une formation d'aide médico-psychologique. Et donc mon stage, en fait, ça a été l'IME. C'est un établissement privé tenu par une famille financé par des fonds publics. Le centre est perdu au milieu de la pampa gersoise et de prime abord, c'est super sympa. Vous avez un grand espace vert juste devant avec une fontaine. C'est un château, on peut aussi dire que c'est une maison bourgeoise. C'était un peu vieillot, mais rien m'a alerté. Voilà. Moi, je n'ai pas travaillé dans le domaine du handicap avant. Donc, je ne savais strictement pas à quoi ressemblait un établissement médico-social. J'ai été jetée dans le grand bain de suite. Le chef de service m'a dit une phrase, je pense, qui... La maman que j'étais à cette époque-là, avant d'être la professionnelle, forcément ça m'a parlé. Considérez ces enfants comme les vôtres. Il y avait 80-90 résidents, et puis certains sont pupilles de l'État, ils n'ont plus de parents. Voilà, donc il n'y a plus de parents, mais il y a des tuteurs. On est vraiment dans le champ de la grande vulnérabilité. Ils sont totalement dépendants de vous. Il y a 2 services. Le service des polyhandicapés, où il y a les plus grands handicaps réunis dans cette institution. Et après, il y a la vitrine, ce que j'appelle la vitrine. c'est du handicap beaucoup moins lourd, et ceux-là donc sortent. Les moins tordus, les moins qui bavent, les moins qui crient, les moins... voilà. Ces gamins arrivent dans l'établissement, on leur enlève leurs vêtements perso, ils n'ont pas de doudou, ils n'ont pas... les habits, c'est à tout le monde et à personne. Je crois que j'ai pas mis longtemps à comprendre qu'il y avait certaines choses qui me dérangeaient. Alors mon groupe, il était... La Benjamine avait 5 ans jusqu'à plus d'une vingtaine d'années. Un groupe de 12 ans. Voilà. 12 à 2, c'est hyper compliqué. Et j'avais tellement peur de les casser. Alors ça a l'air très bête, mais ils sont super fragiles. Ils ont, même si certains sont adultes, ils sont petits. Et c'est des enfants qui ne parlent pas. On est dans la communication non-verbale. Là, vous faites le grand bain dans le monde du silence. Voilà. Il n'y avait pas d'espace nuit et d'espace de toilette. C'était tout dans la même pièce. Et vous avez des résidents qui dorment dans des boxes de verre de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau, sans... Enfin, c'est des cages en verre, quoi. Et des dortoirs, c'est à tout le monde des personnes, avec des lits superposés. Enfin, c'est du grand et vaste n'importe quoi, garçons-filles mélangés. Les baignoires, c'est extraordinaire. Parce que normalement, on a des lits douches. Là, c'est en fait de grands éviers. C'est des baignoires sabots, mais qui surdatent. Et dans ces baignoires sabots, vous avez des transats faits maison. Le pourtour est en fer. Et c'est des espèces de sangles en tissu assez épais. L'eau sortait hyper chaude. Hein, et les robinets sont hyper chauds. Donc le moindre genou qui touche à un robinet, vous pouvez les brûler. Et comme rien n'est adapté, vous êtes tout le temps en train de faire attention de ne pas faire mal à un petit. Le carrelage pas adapté, donc ça glisse, voilà. Il n'y a rien aux fenêtres, donc tout le monde voit les gamins à la douche. Alors, moi, je sais que j'avais demandé à ce qu'il y ait au moins quelque chose sur les vitres pour cacher, mais non, parce que le château, c'était à monsieur et madame. Pendant des années à l'institution, c'était monsieur et madame, voilà. C'est un peu les monarques du château. Et comme ça appartenait à monsieur et madame, ben, il n'y avait pas de possibilité de mettre en place quoi que ce soit. Arrivé une fois que ces toilettes étaient faites, j'allais chercher le repas avec une autre collègue dans une voiture. Alors c'était la voiture verte. Dedans, on y mettait le linge sale, le linge propre, les poubelles et les containers pour la nourriture. Tout mélangé. Sur le coup, quand c'est vos premiers pas et qu'on vous présente ça comme une normalité, pour vous, c'est, vous faites pas attention, donc pour vous, c'est normal. Voilà, je fais la même chose que tout le monde. C'est une institution qui est repliée sur elle-même. Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Certains parents, on leur faisait visiter les bâtiments, mais les bâtiments VIP, de la vitrine. Les bâtiments tout beaux, tout jolis, tout neufs. C'est tout un tas de dysfonctionnements qui fait qu'à un moment donné, y a des dérives gravissimes. Et ça ne peut venir que de la direction, puisque le fil rouge qui est donné à l'institution, la méthode de faire, le mode de vie qui est donné aux éducateurs, ça vient forcément de la direction. Cessez de réfléchir. Ça, c'est la phrase qui me restera toute ma vie. La considération qu'ils avaient pour ces résidents, ouais, profondément, ça me choquait. Enfin, je ne comprenais pas, quoi. Et après, quand vous obéissez pas, vous êtes punis. Et les punitions, c'est vous n'avez plus de week-end avec vos enfants, vous n'avez plus de mercredi, et vos plannings sont faits en sorte que vous ne pouvez plus conjuguer votre vie professionnelle avec votre vie familiale. Parce que ce sont les maîtres, les maîtres. Moi, je me souviens des points de suture qui sont faits à vif, quoi. Voilà, parce que ces enfants-là ne ressentent pas la douleur. Ça, c'est une parole d'un membre de la direction. Ces enfants-là ne ressentent pas la douleur. Mais c'est comme les contentions. Ces gilets-là qui sont faits par la lingère de l'institution. Franchement, au départ, j'avais du mal, quoi. Après, peu à peu, l'institution vous happe. Hein, et il y a des choses que vous finissez par faire par réflexe. Alors, vous faites ces gestes-là, mais dans votre tête, c'est super compliqué. C'est un peu le yin et le yang, quoi. C'est vous battez contre vous-même. Après, il y a ce que je veux bien vous dire et ce que je vous dirai jamais. Ça devait être 2009, je crois. Ouais, 2009. Et c'était 14h et j'ai levé une résidente qui était adulte. Elle était à la sieste. Et elle était franchement, mais alors pas en forme. Ouais, elle avait vomi quand je l'ai levée. Et je l'ai marquée sur le cahier de liaison et j'ai marqué clairement dans quel état on l'avait retrouvée. À 15h, je devais aller chercher le linge et puis donc j'appelle une fille de la pouponnière pour qu'elle prenne mon relais. Et puis quand je suis arrivée, elle me dit « Ah ben tiens, elle s'est levée de son lit, elle est tombée d'un coup, et du coup elle est tombée à terre. » Bon, je l'ai mis en position latérale de sécurité. Et j'ai appelé un des membres de la direction. Et à 4h, elle n'était pas revenue à elle. Je l'ai marqué sur le cahier, enfin j'arrête pas de le dire quoi. Et il y a un autre membre de la direction qui m'a dit « Mais c'est un état comateux normal, pouvant durer 3-4 heures. » Dont acte. À 18h, elle n'était pas revenue à elle, donc j'ai dit « mais c'est pas normal, il y a le repas, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc on me demande gentiment de mettre son repas dans le frigo. Je mets le repas dans le frigo et à 19h, elle était toujours dans le même état. Toujours en position latérale de sécurité, au sol, et elle n'était toujours pas revenue à elle. Et donc on me demande de la mettre dans sa chambre. Donc on l'a traînée sur le sol à 4 et on l'a mis dans sa chambre fermée à clé. Et j'ai pas eu le droit d'appeler les pompiers. Les secours ont été appelés à 7h30 le lendemain et qu'elle est décédée. Clairement, elle est morte. Et on n'a rien fait. Et vous avez ça sur votre conscience et il faut que vous viviez avec. Et j'ai attendu, hein. Je me disais que c'était parce qu'il y a eu l'infirmière de nuit, il y a eu la veilleuse de nuit, et je me suis dit, les pompiers l'ayant amené à l'hôpital, l'hôpital va faire un signalement. Il fait, mais rien, il n'y a rien eu. La famille a déposé plainte, la plainte a été classée. Je suis rentrée en 2008 et en 2010, j'étais à deux doigts de lancer la première alerte. Et je ne l'ai pas fait et j'ai été lâche parce que j'étais sous l'emprise de l'institution. Enfin, c'est monstrueux, mais et c'est pourtant vrai. J'avais peur et puis je n'avais pas assez de preuves et je n'étais pas psychologiquement encore assez prête pour pouvoir dénoncer. À ne pas vouloir parler, on s'enterre nous-mêmes. J'arrivais à la maison, mais combien de fois j'arrivais en pleurs? Combien de fois j'étais forcément pas bien et Mais si j'ai fini par craquer et par dénoncer, c'est parce que j'allais basculer dans cette violence institutionnelle. J'ai attendu d'avoir les billes suffisantes pour pouvoir dénoncer et que ça soit entendu. Et à ceux qui me disent « oui, mais t'as mis 6 ans pour dénoncer », ouais, mais je leur laisse ma place, quoi, avec grand plaisir. Parce qu'il faut être dedans, il faut le vivre pour arriver à comprendre. J'ai commencé un peu à m'intéresser, à aller chercher sur Internet. Et je suis tombée sur l'histoire de Bernadette et Christelle. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème. 95, premier signalement, rien n'est fait. 99, deuxième signalement, rien n'est fait. Et le pire de tout, c'est que les éducateurs sont condamnés. Et là, je me suis dit, c'est stop, quoi. Donc je m'arrête le 17 mai 2013 et on fait ce signalement fin mai 2013 avec la CGT. Les box, les contentions, pas de projet éducatif, pas de visite au médecin, enfin tout complet. Et là, juillet 2013, 3 jours d'inspection. Et puis vient ce fameux rapport de l'Agence régionale de santé. Page 7. Si on laisse perdurer la situation, on laisse clairement perdurer une situation de maltraitance institutionnelle. Et ça bouge toujours pas. L'ARS dit « on n'a jamais vu ça de notre carrière, donc on est revenu le lendemain faire une visite, mais on n'a pas jugé utile de déposer plainte. » Et en plus, nous on a saisi l'Organisation des Nations Unies sur ce dossier. Quand la France est auditionnée, le rapporteur de l'ONU, il est clair, net et précis. Page 11 en 38. La contention, l'enfermement, l'isolement sont considérés comme des actes de torture et de barbarie par l'ONU. Et c'est pas moi qui le dis. Et circuler, il n'y a rien à voir. Il y a eu 9 plaintes familles salariées. Tout a été classé sans suite. Enfin, c'est au-delà du réel, un truc comme ça. Octobre 2014, je monte avec d'autres professionnels et d'autres parents l'association Indignez-vous. Et je fais une interview pour LCI. Et forcément, on a parlé de l'IME. Et après, il y a eu une émission sur Europe 1. Et c'est ça qui m'a valu les 2 plaintes pour diffamation à mon encontre, mais en ma qualité de présidente d'association. Et j'ai été mise en examen en septembre 2015. Je me retrouve assise sur le banc des accusés. Et pendant ce temps, les dirigeants de l'institution sont dans l'impunité totale. Je ne sais pas ce que va donner le résultat du 21 novembre. J'espère la relaxe et puis surtout reconnaître enfin que ces enfants ont effectivement été maltraités. Parce que vous avez toujours des cris, des odeurs, vous avez... Le visage de ces enfants qui vous reviennent et parce que ça vous brise votre vie. J'ai été licenciée en mai 2014 pour inaptitude à tout poste. Oui, j'ai tout perdu. Oui, mais moi le matin quand je me lève et que je me regarde dans une glace, j'ai au moins ma tranquillité d'esprit de me dire que mais je participe pas à ça quoi. C'est parce que c'est pas possible. Parce que ça fait 20 ans qu'on demande que cette espèce d'oligarchie, cette famille s'en aille, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Voilà.
On a un petit endroit pour s'asseoir ?
Oui, il y a la balançoire là, si vous voulez.
La grande balançoire.
On est à Saint-Antonin, dans le Gers. Je m'appelle Joëlle. Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. 2 aînés, un militaire et l'autre qui est en train de faire un stage dans le même circuit. Et donc Cyril. Voilà. Ils n'ont jamais su me dire exactement ce que c'était. Bon, le seul truc, il a un retard psychomoteur, voilà, c'est important, parce qu'il est petit, il m'arrive là à peu près, il n'est pas...
À l'épaule.
Oui, il n'est pas bien grand. Après, tout fonctionne bien, mais il ne parle pas. Il faut être là pour l'habiller, il faut être là pour le laver, il faut que je sois là pour lui changer la couche, le faire manger des fois à la rigueur, 24 heures sur 24, quoi. On se dit, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va pas s'en sortir? On ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est quand même des questions à se poser, malgré tout. Et quand vous avez, malheureusement, des établissements comme celui, nous allons dire, dans l'établissement où je l'ai mis, je trouve inadmissible que même là, on l'a blessé. Ça, je ne peux pas l'admettre. Personne ne l'a admis. Ça se passait très bien, jusqu'à nouvel ordre. Puis ensuite, en 2008, on m'a appelé le 11 septembre 2008 pour me dire que Cyril avait les mains abîmées. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec mon compagnon? Nous sommes allés le chercher. Arrivé là-bas, On nous a dit qu'il s'était fait mal aux mains, qu'à 8h du matin, il n'y avait rien, que c'est... ensuite, à 8h15, quand l'infirmière est passée, il avait les mains abîmées. Et j'ai un cahier de liaison. Sur ce cahier de liaison, on me disait tout autre chose. Qu'on l'avait retrouvé le matin comme ça, signé de la directrice, attention, hein. Voilà. Donc ce jour-là, c'est la directrice qui nous a reçus, nous expliquant que c'était rien, qu'on y avait mis des pansements pour pas que ça s'infecte. Voilà, bon. Crédule, on les a crus. Par contre, j'ai quand même appelé mon médecin le soir en rentrant, parce que, voilà, je vais pas laisser Cyril comme ça. Et le médecin est arrivé, il y a ôté les pansements. Il y a un ongle qui est venu avec le pansement. Donc voilà la main de Cyril, là vous voyez, on voit une cloque, on voit vraiment que c'est abîmé à l'ongle, vous voyez. Les doigts sont très très gonflés, donc on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Là, vous voyez la souffrance du visage de mon fils quand même dessus. Hein. C'est mon fils. Vous voyez, là il n'a plus de peau. Les deux mains sont comme ça. L'hôpital nous a certifié que c'était des abrasions.
Ça veut dire quoi, des abrasions ?
Des abrasions, ça veut dire qu'on ne sait pas où il s'est brûlé, où il a touché quelque chose, on ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas, on n'a pas voulu me le dire. Enfin, on ne m'a rien dit, du moins. Un enfant peut se faire mal. J'en conviens. Mais au moins qu'on nous dise la vérité à nos parents. On leur confie quand même, mince. Alors, est-ce qu'ils l'ont attaché au lit ? Qu'il a voulu se détacher ? Qu'il s'est fait ça ? On n'en sait rien. Attacher un enfant à un lit, c'est immonde. Comprenez bien que moi, il se lève la nuit, je ne l'attache pas au lit. Hein. Il fait sa petite vie et je me lève avec lui. Voilà. Bon, c'est vrai qu'ils en ont beaucoup, mais en fait, il ne faut pas exagérer. Manque de peau, il s'est avéré qu'il y avait une surinfection. On ne va pas me dire qu'en un quart d'heure, une surinfection pour se mettre. Même en une nuit. On ne peut pas dire qu'une surinfection se mette en une nuit, je ne pense pas. Alors, est-ce que mon fils s'est fait mal plus tôt ? Qu'on ne m'ait rien dit ? Je ne sais pas. Donc, il a été 17 jours de pansement jusqu'à ce qu'évidemment que les mains se guérissent complètement. 17 jours sans pouvoir attraper ses jouets, parce qu'avec les pansements, il ne pouvait pas. 17 jours de souffrance, nous allons dire, et moi de la culpabilité de d'avoir fait confiance à ces gens-là.
Ah, ben je crois que voilà Cyril.
Ah oui, c'est possible parce qu'il sort. Là, il est content, il s'amuse avec ses jouets, il fait sa petite vie. Voilà, alors, des fois, il marche par là, il va se promener. Et s'il pouvait rester dans la voiture toute la journée, presque il le ferait.
La voiture ?
Oui, quand il promène par là, il ouvre les voitures et il s'installe dedans. Et là, il joue. Eh bien, redresse-toi, chouchou. Tu vas tomber comme ça, Cyril. C'est pas moi qui ai eu l'idée de l'IME, c'est que j'avais une assistante sociale à l'époque. Elle me dit, oui, il faudrait que vous le mettiez dans un centre, ça vous fera du bien. Vous pourrez vous reposer un peu plus, vous pourrez faire ce que vous avez à faire. Dans l'année de ses 12 ans, donc, j'ai décidé de l'inscrire là et de faire une prise en charge pour ce fameux centre. Elle est allée me faire visiter, bon, très bien. J'ai vu donc la direction, j'ai expliqué à la direction ce que faisait Cyril, ce qu'il mangeait, patin, couffin, comment je faisais pour ci, pour là. Ce que j'ai vu moi, c'était pas mal. Il y avait des jeux, il y avait des tables pour les faire manger. Après, un peu plus loin, il y avait le dortoir où c'est qu'ils allaient dormir. On se dit, bon, il sera bien. On va s'occuper de lui. Il va faire des progrès. Voilà, je ne lui laissais pas plus de 2 jours. Non, je ne pouvais pas laisser plus. Je prenais tous les rendez-vous. Si j'avais besoin d'aller chez le coiffeur, je prenais le rendez-vous à ce moment-là. Si j'avais envie d'aller à la thalasso, j'y allais à ce moment-là. Voilà, c'est sûr. Si j'avais pas Cyril, je pouvais faire ces choses-là. Mais c'est pas simple du tout de se dire, merde, moi j'en ai profité, mon fils, il était là-bas, je sais pas. Parce qu'il y est arrivé ça. J'ai les photos, certes. Qu'est-ce qu'il y a pu lui arriver à autre que je ne sais pas ? Je sais pas. On m'a dit qu'il avait peur de l'eau. Mon fils n'a pas peur de l'eau. J'ai des photos où il est à la mer, où il est dans la piscine. Mon fils n'a pas peur de l'eau. Évidemment, si vous lui mettez de l'eau chaude ou de l'eau froide, ça, je ne peux pas vous assurer que ça s'est passé. Mais c'est sûr que là, le gosse, il n'aime pas. J'ai remarqué aussi, quand il rentrait le soir, qu'il me filait directement au réfrigérateur. Alors qu'on me mettait sur le cahier de liaison, oui, il a mangé. Pensez-vous comme il avait mangé. Il devait avoir mangé, mais pas grand-chose. Il me vidait une assiette de repas à chaque fois. Vous vous dites, mais ils font quoi? Ils les font manger ou ils les font jeûner? Je suis écœurée, de toute façon, de voir des gens qui sont payés pour ça. Parce que quand même, la pépette, je ne me souviens pas trop, mais je crois que c'est dans les alentours de 2000 euros. Peut-être même un peu plus. Par mois, et il n'y allait que 2 jours par semaine. Il est arrivé ça, j'ai décidé du jour au lendemain, c'est fini. Et c'est pas des bestiaux, nos enfants. Hein. J'ai porté plainte. Il a fallu que je lui fasse passer un examen à Auch, à l'hôpital, pour justement voir si c'était de l'abrasion, si c'était ci, si c'était là. Donc ils ont conclu à l'abrasion, après ils ont conclu qu'il y avait une morsure là, il y avait des bleus aux genoux, il y avait des bleus aux oreilles, il y avait des bleus à la jugulaire. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils, quoi? Donnez-moi une explication. Alors j'ai donc porté plainte qui m'est revenue évidemment sans suite. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt. Je ne me doutais pas qu'une chose comme ça pouvait arriver.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Maltraitance, un reportage de Valérie Borst, réalisé par Delphine Lemaire. Merci à Joël, à Julia, à Bernadette et à Céline. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience.